Le thème de ce soir est le messianisme, une utopie juive, présenté par Léon Askenazi, qui est le fondateur du QEJ et le directeur de l'Institut d'études juives Mayanot à Jérusalem. Et ce n'est donc pas vraiment une introduction au conférencier que je vais faire. Je vais juste introduire le thème de ce soir à ma manière, mais juste très brièvement, et de manière à introduire la discussion. J'ai vu qu'il y avait un point d'interrogation, d'ailleurs, après le messianisme et l'utopie juive, que je n'avais pas remarqué, je ne sais pas s'il a été ajouté ultérieurement. Ce point d'interrogation devient du coup le point le plus important de la conférence de ce soir. Pour présenter ce thème et essayer de le lancer, de le faire tourner un peu pour nous apprêter à mieux écouter Léon Ashkenazi, je voudrais juste faire quelques remarques liminaires. Car ces trois termes, messianisme, utopie et juif, d'une certaine façon font curieusement pléonasme, se chevauchent l'un l'autre, au point qu'on pourrait presque soutenir que l'utopie est une invention juive. Bien sûr, c'est Thomas More qui a inventé le mot, mais il a systématisé quelque chose qui, d'une certaine façon, est déjà dans Isaïe, quand il dit « Et ils n'apprendront plus la guerre », chapitre 2, verset 4. Et la première chose qui apparaît par là, par le prophétisme, c'est que l'utopie ne se situe pas en dehors de l'histoire. Elle ne semble en sortir que parce qu'elle est dedans. Je crois qu'on peut dire, du moins à titre de définition provisoire, il y en a certainement plusieurs, ne serait-ce que celle qui roule sur l'étymologie, l'utopie est une lutte pour des valeurs qui ne sont pas réalisées. Et cette lutte n'a pas lieu hors de l'histoire, mais dedans. Et je crois que ceci a une importance très grande quand on pense par exemple au livre de Julien Binda, La trahison des clercs, qui précisément situe les valeurs hors de l'histoire. Et je dirais que cette lutte est même ce sans quoi l'histoire ne peut pas se concevoir en termes de sens. Or, la recherche du sens est déjà l'utopie de l'histoire. À son tour, je dirais, l'histoire est la matière du sens. Et l'utopie, qui a l'air de sortir indéfiniment de l'histoire, a indéfiniment besoin de l'histoire. Et le sens a besoin de l'utopie dans l'histoire. C'est pourquoi j'en tirerai momentanément une conclusion qui peut surprendre, c'est qu'il n'y a pas de métalangage, plutôt pas une conclusion, une proposition, je dirais qu'il n'y a pas de métalangage de l'utopie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'utopie. On ne parle pas de l'utopie comme on parle de la littérature ou de l'art. Parler de la poésie, ce n'est pas faire de la poésie. Mais parler de l'utopie, c'est déjà participer de l'utopie. Alors, je dirais, le danger de l'utopie est double. Il est d'abord de se fixer. Dès que l'utopie a un lieu, puisque étymologiquement l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, dès que l'utopie a un lieu, elle risque de devenir une terreur, un totalitarisme, comme bien des utopies révolutionnaires. Et ce qui sauve alors l'utopie, c'est peut-être précisément de ne pas avoir de lieu. Mais il y a un autre danger pour l'utopie, c'est de devenir le non-lieu d'un langage vague, de devenir des métaphores de métaphores. Et je dirais, l'utopie n'est pas un vide de la philosophie, c'est un défi à la philosophie, c'est-à-dire à l'exercice rhétorique du connu dans la philosophie. J'ajouterais l'utopie invalide comme des contrefaçons toutes les systématisations philosophiques qui n'ont plus aujourd'hui que des épigones et des penseurs de charme. L'utopie est tournée vers l'inconnu, c'est un exercice de l'inconnu. Sinon, ça devient un genre littéraire. Et du coup, la philosophie devient elle-même un genre littéraire. Et sans cet exercice de l'inconnu, la philosophie est prise à ses propres ruses et d'abord à sa propre histoire qui devient son propre piège. Et cet exercice de l'inconnu fait le lieu ambigu du rapport entre la pensée juive et la pensée grecque-allemande qui définit ici maintenant la philosophie. Et c'est ici que peut intervenir le messianisme. Mais est-ce qu'il y a seulement un messianisme ? Et autre question, bien qu'il y ait une histoire du messianisme, est-ce qu'on pourrait imaginer un post-messianisme ? En d'autres termes, le judaïsme est-il encore sa propre utopie ? Si on admet qu'il y a un lien nécessaire entre utopie et éthique, d'une part, entre éthique et politique, d'autre part, il apparaît aussitôt que toute utopie est politique et que l'utopie du politique est l'éthique. Et à ce moment-là, j'ajouterai, l'utopie de cet ensemble de l'éthico-politique pourrait être quelque chose du judaïsme, quelque chose de nouveau à faire avec le judaïsme, qui ne soit plus la définition confessionnelle du XIXe siècle, qui d'une certaine manière christianisait le judaïsme, qui en faisait une réponse au lieu d'être une question, c'est-à-dire un enfermement, un particularisme qu'on a beau jeu ensuite d'opposer à l'universel, au lieu qu'il peut être une centralité et une ouverture. Le rapprochement même des deux notions, judaïsme et utopie, montre que le judaïsme a de quoi sortir de ce que j'appellerais sa spécialisation dans la catastrophe, c'est-à-dire de l'histoire passive de son martyr qui l'enferme dans le ghetto du passé et dans la définition de Sartre par l'antisémitisme. Ce sont, je crois même, des manières de neutraliser l'utopie par l'histoire, donc des pièges. Et de manière plus personnelle, j'ajouterais pour terminer, de même que le rythme est l'utopie du sens dans notre civilisation du sens, de même que le poème est l'utopie du signe, et que le juif reste encore l'utopie de l'Occident chrétien, le juif lui-même est peut-être encore une utopie. Mais ça, c'est déjà ma propre utopie, et je passe la parole à Léon Ashkenazi, qui est beaucoup plus à sa place que moi dans ce lieu ou cette absence de lieu qu'est l'utopie.
Bien, je vous remercie, et je pense qu'après votre exposé aussi dense en raccourci, vous avez cadré la relation de ces deux notions que je vais tenter d'élucider, messianisme, et j'ajoute juif et utopie, ou bien, comme cela a été intitulé, messianisme et utopie juive, eh bien, je pense qu'il est nécessaire d'abord d'élucider une question de vocabulaire. Et il est bien évident que, déjà hier soir, avec la conférence de Robert Mizrahi et dans votre introduction, le terme de utopie est délibérément pris dans un sens positif. C'est la valeur à désigner. Or, je crois, et en cela, après ce que vous avez dit, je me sens presque tenté de ne pas consulter mes notes parce que vous avez bouleversé l'ordre de la notation. Et je crois peut-être qu'il est nécessaire d'avoir quelques phrases de remarques préalables sur la possibilité d'un autre sens du terme utopie, je veux dire d'une autre connotation qui serait négative, c'est-à-dire une sorte de visée d'un rêve ou d'un idéal qui, par définition, serait irréalisable. Et je vous avoue que personnellement, je serais tenté de commencer par là et de lire mon sujet de cette manière. Le messianisme, une utopie juive, et dans cette connotation, la réponse serait non. Il y aurait en ce sens-là, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair déjà, il y aurait en ce sens-là une contradiction entre le mouvement de la messianité juive qui, depuis l'origine, je vous citerai tout à l'heure une référence d'après le récit biblique, depuis l'origine, dès le temps des premiers hommes, se veut réaliser dans l'histoire, comme vous l'avez dit très exactement, dans l'histoire de ce monde que le Créateur nous a créé et où il nous a situés, et d'autre part, une telle idée de l'utopie qui serait la recherche perpétuelle et la vertu serait dans la recherche ou dans la tension d'un idéal qui, par définition, pour rester idéal, pour rester pur, ne devrait jamais, surtout jamais, se compromettre dans l'histoire et en particulier dans la politique. Et je crois qu'il sera peut-être le plus fécond de prendre comme exemple ce que serait l'utopie politique de la tradition juive. Et alors, en ce sens, je vais d'abord me recoder au vocabulaire de l'analyse de Robert Mizrahi hier soir, et qui m'a obligé, je dois l'avouer, à repenser un peu mon propre vocabulaire pour ce soir. En ce sens, j'avais au préalable tendance, effectivement, à prendre ce terme d'utopie, c'est peut-être une réaction juive profonde, ancestrale, dans son sens négatif. Utopie, c'est-à-dire, eh bien, ça restera utopique. Et au contraire, il nous a montré qu'il y avait une possibilité de percevoir le mouvement de l'utopiste, le mouvement de l'utopie, comme authentique dans la mesure précisément où c'est déjà une amorce de construction, de réalisation. Si nous employions un langage chrétien, nous dirions incarnation. En hébreu, ça se dit plus exactement réalisation, entrée de la vérité contemplée, de la vérité pressentie, de la vérité découverte ou reçue dans la réalité. Et en ce sens-là, cela me permet, cela m'oblige à une remarque, si vous voulez, un peu d'ordre général, ou je dirais épistémologique peut-être, c'est que dans la confrontation, surtout aussi rapide, en quelques quarts d'heure, en quelques semaines, dans une semaine, la confrontation aussi rapide entre des problématiques qui se servent du langage philosophique et qui ont donc derrière elles l'implication, la connotation, l'épaisseur de toute une histoire de la pensée philosophique. Et d'autre part, des termes analogues ou identiques qui sont censés véhiculer des tendances traditionnelles et qui, dans le cas du judaïsme, s'insèrent, s'enracinent dans la révélation prophétique, eh bien, il y a nécessité d'une élucidation plus patiente. Il y a le risque d'imputer à telle catégorie ce qui pourrait être, dans telle circonstance culturelle, historique, au contraire, les implications de l'autre catégorie. Et donc, c'est plutôt au niveau de la visée du comportement que l'on pourrait percevoir la différence réelle. Et ainsi, j'aurais donc tendance, en premier lieu, de répondre ainsi. Si l'utopie doit rester purement utopie pour être authentique, alors le messianisme juif n'est pas une utopie. Si on entend par utopie authentique une utopie qui porte en elle-même le fondement, le germe de sa propre amorce dans la réalité, et c'était le cas de l'analyse de Robert Mizrahi hier soir sur le bonheur comme fondement de l'utopie, c'est moi qui ai dit authentique, alors il y a là quelque chose à élucider. D'où une de mes premières remarques, c'est que, bien évidemment, puisque nous rencontrons, nous approchons ce problème à travers le vocabulaire de la langue française, qui est très notablement imprégné, qui véhicule, disons, une imprégnation culturelle plutôt chrétienne, alors il y a une mise au point à faire. J'ai l'impression que lorsque le messianisme hébraïque, tel qu'il a été véhiculé par la tradition juive à proprement parler dans sa propre histoire, a été pris en charge par, je dirais, d'autres cultures, par des cultures non hébraïques, alors ce messianisme d'origine prophétique hébraïque biblique a peut-être eu souvent tendance à se présenter comme des utopies dans le sens négatif, c'est-à-dire qui seraient dans un au-delà radical, et dans le temps et dans l'espace, dont la réalisation serait toujours différée, renvoyée à un au-delà radical par essence. Et que la différence fondamentale ici ne serait pas tellement dans le contenu de ce qui est espéré, mais dans l'attitude. Et que cette attitude, dans sa différence, s'enracinerait dans une différence culturelle préalable. Si vous me permettez de donner un entre hébraïque et non hébraïque, et il ne s'agit pas seulement de langage, si vous me permettez un exemple pour éclairer ce premier point. Prenons, si vous voulez, l'éclatement de l'unité de la chrétienté en différentes églises, en différentes tendances, que je schématiserai en catholique, orthodoxe, protestant. Et c'est bien schématique si vous êtes au courant de la richesse des différents courants à l'intérieur de cet ensemble et de ces sous-ensembles, c'est bien entendu très schématique. Eh bien, on pourrait poser une question. Est-ce que la différence de la conscience chrétienne chez le catholique, chez le protestant, chez l'orthodoxe, est-elle d'abord théologique? Est-ce qu'elle n'est pas d'abord culturelle? Est-ce qu'elle n'est pas d'abord, et là il faudrait trouver un vocabulaire très précis, est-ce qu'elle n'est pas d'abord dans la manière d'être homme, dans la société qui a reçu ce message et qui le transmet ou s'en laisse traverser? Devant la même Bible, lorsque c'est un slave qui lit, peut-être que la lecture, par définition slave, devient orthodoxe et théologique en second lieu seulement, dans sa différence théologique. Lorsque c'est un latin qui lit, alors la lecture devient catholique. Et lorsque c'est, disons, un anglo-saxon qui lit, la lecture devient protestante. Et bien sûr, il y aura toutes les exceptions, parce que la personne humaine à l'échelle individuelle est le summum du paradoxe, mais il y a là des tendances schématiques. Et donc, lorsque le message prophétique de la messianité est reçu, entendu, redit par des sociétés non hébraïques, est-ce que là, cela ne deviendrait pas l'utopie dans le sens négatif que j'ai indiqué tout à l'heure? Et par conséquent, il faut inévitablement recoder notre vocabulaire. Et c'est pourquoi j'étais un peu, non pas désorienté, au contraire, par l'analyse de Mizrahi hier soir, en cela qu'il a imputé son contenu à la dialectique philosophique. S'il est là d'ailleurs, il s'en expliquera lui-même. J'y ai réfléchi et je crois qu'il y a là, non pas un paradoxe, mais une ambiguïté. Bien entendu, c'était une analyse philosophique, mais conduite par un juif. Et le fait que derrière le philosophe, il y avait le juif, indiquait très évidemment à mes oreilles d'hébreu, si j'ose dire, qu'il est bien nécessaire de réfléchir à cela. Alors je nuance un peu la réponse de tout à l'heure. Si l'utopie peut être prise dans un sens positif, dans son commencement de construction, de réalisation, alors bien évidemment oui, le messianisme, c'est l'utopie juive, dans ce sens-là. Ou, pour nuancer un tout petit peu, le messianisme juif serait l'utopie humaine. Et je dois, en deuxième point, immédiatement donc, essayer de définir, d'ailleurs, en prenant mon point de départ dans votre indication de tout à l'heure. Le messianisme juif, c'est cette tension de fidélité et d'effort de faire entrer dans la réalité le message des prophètes. Et le message des prophètes, c'est la visée de l'unité humaine, et c'est la visée de la pacification, et c'est la visée du bonheur, comme il a été dit tout à l'heure. Vous vous souvenez que le premier verset du premier psaume commence dans son premier mot par le mot « Acheré ». Heureux celui qui. Bien entendu, la dimension de l'éthique va apparaître dans mon analyse de façon systématique. Peut-être que le secret de la conscience hébraïque a été celui-là. C'est que la médiation de l'utopie par excellence, c'est la confiance dans la moralité. C'est la confiance dans l'efficacité de la moralité. Et que, cela implique énormément de problèmes, mais et que l'utopie n'a de chance de trouver son point d'insertion dans la réalité, dans un commencement historique, que dans la mesure où il y a d'abord option délibérée pour la moralité comme niveau de l'utopie. Toutes les autres valeurs venant s'y adjoindre, faisant unité avec elles, mais privilégier le démonisme ou l'esthétique sur la moralité, c'est peut-être cela le secret de la parole prophétique, que si la moralité n'est pas préalable, eh bien, toutes les utopies ne sont que des rêves. Et là, j'en arrive à un point assez important et sur lequel nous aurons à discuter tout à l'heure, certainement. C'est que je ne crois pas, pour m'appuyer de nouveau sur une analyse de Robert Mizrahi hier soir, je ne crois pas que, à ce niveau du problème, par rapport aux choses dont nous parlons, messianisme, utopie, les termes de pessimisme ou optimisme ne peuvent renvoyer qu'à une question de tempérament, qu'à une question d'option contingente de l'individu. Je crois qu'il y a, et nous devons schématiser, mais il y a une lecture de l'histoire que nous pourrions conduire à travers, disons, les lignes de force du récit biblique. Ce récit biblique, et j'y reviens souvent, est très pessimiste lorsqu'il décrit l'histoire de l'humanité en général, à l'échelle de l'universel. Pour prendre un raccourci d'exemple, à partir du premier homme, une tentative de faire émerger l'identité humaine et qui aboutit au déluge. Catastrophe. Et je ne crois pas qu'il y ait une lecture caractéristiquement hébraïque d'une histoire catastrophique, mais le récit biblique et certainement un récit pessimiste lorsqu'il décrit l'histoire universelle, comme si toutes les tentatives dans leur répétition sempiternellement reprises aboutissent à la même impasse catastrophique lorsque ces grandes consignes de la parole prophétique ont été oubliées, c'est-à-dire la recherche délibérée de l'unité humaine, de la pacification et du bonheur. Mais à l'intérieur de ce récit général, universel, pessimiste indéniablement, et qui aboutit à l'Ecclésiaste, lu par une lecture non hébraïque, il y a un récit optimiste. C'est le récit hébraïque qui commence à Abraham et qui aboutit à l'identité messianique. Et ce serait dérision si ces deux récits n'étaient pas liés, si le Messie qui vient de l'intérieur de l'identité hébraïque ne concernait pas l'universel humain, bien évidemment. Mais nous sommes à l'intérieur de la cohérence d'un monothéisme absolu. Et par conséquent, les deux récits sont liés. Jusqu'au bout, sans doute, la dominante, la tonalité pessimiste prend le pas. Mais c'est à la fin que se dévoile le dévoilement, si j'ose dire, et l'aboutissement. Et alors là, je crois que c'est plus que simplement une question d'option de tempérament à un niveau purement de caractère, à un niveau purement contingent, que par exemple dans la même famille humaine, dans la même famille tout court, il y ait des enfants des mêmes parents, les uns pessimistes et les autres optimistes, à un tout autre niveau, beaucoup plus profond, beaucoup plus ontologique, beaucoup plus anthropologique d'ailleurs. C'est un phénomène de société. Et la société hébraïque de laquelle ont surgi ces prophètes était comme société d'options optimistes, et que peut-être les autres sociétés ont choisi, en tant que société, je dis bien, puisqu'à l'échelle individuelle, de nouveau, l'option personnelle peut être différente, ont choisi une vision pessimiste de ce récit de l'histoire. Sur quel point, et je crois très essentiellement celui-là, on a renoncé à l'unité entre vérité et réalité, à l'unité entre idéal et réalité, à l'unité donc, pour entrer dans les problèmes importants, entre par exemple morale et théologie, morale et politique. Et ce renoncement à cause des apparences de la réalité du monde où nous sommes, à cause des apparences du fonctionnement de l'être de nature dans lequel nous sommes situés, le monde. Et donc, je pense qu'il y a là un point important sur lequel je souhaite que nous reviendrons. Cela dépasse une question d'option littéraire ou même philosophique. C'est un fait de société, cet optimisme messianique. Et donc, en reliant ces deux remarques, nous arrivons à une troisième. La différence, finalement, entre ce que serait le messianisme chrétien, je veux dire de la société culturelle dans laquelle nous nous situons actuellement et depuis 2000 ans. Et peut-être faudrait-il aussi, d'ailleurs, une dimension qui concernerait ce que serait, le terme n'existe pas à proprement parler, un messianisme musulman. Mais je crois très exactement, et cela vaudrait la peine qu'on y réfléchisse, que le projet messianique des prophètes hébreux, pris en charge par une société non hébraïque, est devenu utopique dans ce sens négatif que les tenants de l'utopie critiqueraient en parlant d'un messianisme désincarné, ce qui est un paradoxe de langage, en tout cas. Et là, je voudrais simplement vous communiquer une remarque qui est le résultat d'une réflexion qui me poursuit depuis que j'ai entendu cette phrase d'Edmond Fleck, ou du moins que je l'ai lue. Non, il me semble que je l'ai entendue de son vivant. En tout cas, elle est écrite. En parlant de la nécessité de ce que nous appelons aujourd'hui une convivialité entre juifs et chrétiens dans la société occidentale, et vous devinez quels en étaient les motifs graves de sortir de l'atmosphère catastrophique de nos rapports. Alors il disait à la manière d'un poète, mais il le pensait, qu'après tout il peut y avoir un point de convergence, en ce sens que les uns croient à un Messie qui revient, et les autres à un Messie qui vient. Bien, personnellement, je pense que cela n'a décidément rien à voir. Un Messie qui revient renvoie à une toute autre perception de l'existence. Et en particulier par rapport à nos problèmes. La pacification du monde, dans la mesure où il pourrait y avoir de nouveau cet optimisme d'unité entre le ciel et la terre, entre tout ce qui est de l'ordre de l'idéal et tout ce qui est de l'ordre de la réalité, chacun dans son vocabulaire. Un Messie qui revient, c'est un Messie qui ne revient que s'il veut. Tandis qu'un Messie qui vient, c'est un Messie qui vient parce que je le veux. Et là, le rôle de l'homme en tant que tel a une toute autre portée, a une toute autre fonction. C'est là que je me retrouve très exactement parallèle avec l'analyse de Mizrahi dans sa recherche, hier soir, dans sa recherche des fondements de l'utopie, dans la tendance au bonheur. Il n'a pas dit tendance, je dirais exigence du bonheur. C'est-à-dire, c'est moi qui fais que s'invente, moi l'homme, qui fait que s'inventent les médiations d'incarnation, de réalisation de cette unité recherchée qui seule peut donner le bonheur. Parce qu'il ne peut y avoir de joie que lorsque toutes les valeurs à la fois sont satisfaites. Et si les valeurs de l'idéal seul sont satisfaites au détriment des valeurs de la réalité ou réciproquement, il peut y avoir tel ou tel plaisir, il peut y avoir telle ou telle jouissance, mais il ne peut y avoir ce que vise ce premier verset des psaumes, « Ashrei Haïch, heureux l'homme qui y aboutira ». Et donc là, il y a quelque chose de extrêmement différent, malgré tout. Alors, je pense que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure très rapidement, l'exemple le plus privilégié, parce que nous vivons dans l'époque contemporaine de l'histoire juive, quelque chose de cet ordre, un commencement de construction de cela, au niveau de la réalité historique, sociologique et donc politique. La raison pour laquelle, pendant des siècles, le projet messianique juif à proprement parler a pu prendre jusqu'au 19e, y compris, comme vous l'avez dit, avec ses apparences confessionnelles, mais ses apparences confessionnelles n'étaient qu'occidentales, strictement européennes d'ailleurs, d'origine. Et pourquoi ce messianisme juif a pu prendre cette apparence d'un messianisme différé par essence, différé dans le temps et l'espace, différé radicalement, alors qu'il ne l'est pas dans son essence, comme vous l'avez très bien noté. Alors je voudrais, à ce propos, lire un texte du Rav Kook, qui, je crois, en tout cas à ma connaissance, est le seul qui ait touché ce problème de cette manière. Ce texte se trouve dans le livre Oroth, à la page 14, et c'est le troisième paragraphe d'un chapitre consacré à la guerre. Alors, je vous le lis simultanément en hébreu et en français, de telle sorte que, malgré tout, les hébraïsants entendent les termes hébraïques précis qui sont très souvent intraduisibles vraiment exactement. Alors, voilà ce qu'il dit au nom de l'histoire juive, et nous nous situons donc au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, c'est-à-dire 20 siècles après la destruction de la société hébraïque et ce que nous appelons l'exil ou la dispersion des communautés juives, porteur en fidélité du rêve messianique de la prophétie hébraïque, mais n'ayant pas possibilité, occasion de tenter de l'illustrer dans la réalité, puisque, à travers ces 2000 ans d'histoire de dispersion, il s'agissait de la préservation d'une fidélité beaucoup plus que d'une effectuation d'existence. Alors il commence par dire ainsi, « Azavnu et a politica, nous avons abandonné la politique, c'est-à-dire l'histoire de la politique et la politique dans l'histoire. Nous étions des communautés, je ne dirais pas confessionnelles, des communautés juives, à l'intérieur de sociétés qui fonctionnaient sur un tout autre modèle que notre propre rêve messianique, lors même qu'elles se présentaient comme religieuses d'origine biblique, tant la chrétienté que l'islam, et messianiques à leur manière, mais à leur manière. Alors il nous dit, « Azavnu et a politica », nous avons abandonné la politique. Alors la mythe mondiale, « Mais ones sheyeshbo ratzon pnimi », forcé, mais y adhérent par volonté intérieure. Ones, c'est plus que être forcé, c'est le viol. On nous a obligés. Rome a détruit Jérusalem. Mais on nous a obligés, mais nous étions d'accord profondément. De quoi ? Non pas d'être détruit en tant que société, mais d'abandonner la politique, la vie politique. Et donc, tout ce message prophétique s'était surtout formulé à un niveau moral, à un niveau spirituel, à un niveau religieux, avec des dimensions politiques, d'analyse législative, d'une société politique possible, éventuelle, mais conçue comme utopie, quand le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, je n'ai pas dit « reviendrai ». Et voilà donc la première phrase, et elle est importante, il y a une adhésion, et il faut expliquer pourquoi il va le faire, il y a une adhésion de cette parenthèse politique qui a duré 2000 ans, de l'identité juive, ad asher tavo et meusheret, jusqu'à ce que puisse venir un temps heureux, un temps de bonheur, sheiye efshar, où il serait possible, le nahel mamlacha, de conduire un état, bli richa ou barbariout, barbariout, vous avez compris, sans méchanceté et barbarie. Il y a là l'indication que on s'est souvent réfugié, en vue de préservation de l'authenticité, dans l'utopie qui ne serait qu'utopie, parce qu'on voyait lucidement qu'il n'y avait aucune possibilité, dans les conditions objectives de la réalité historique de tel ou tel type de société ou de civilisation, de penser à la réalisation de l'utopie sans qu'elle ne soit, comment dire, salie, rendue impure, a priori assassinée. Et a commencé le temps d'une très longue patience. 2000 ans, c'est très long. Or, ajoute le Rav Kook, et nous sommes donc dans les premières années du XXe siècle, Zehu Azman Shanu Mekavim. C'est ce temps-là que nous espérons, c'est moi qui ajoute dans notre utopie messianique, un temps où il pourrait y avoir une société humaine qui ne serait plus basée dans sa gestion des affaires, on dit l'État, mais c'est plus large que l'État, c'est la société. Sur un comportement de barbarie. Et c'est cela que nous attendions. Et il dit au présent, c'est cela que nous attendons. Mouvanadava, il est évident, Shekedele Akshimo, qu'afin de réaliser cette espérance, ce rêve, Anutzrichim et Orer Bekohotenu Kulam. Et là, c'est important. Nous devons nous réveiller, nous éveiller. Il parle de la société juive qui était en ghetto, qui était en réserve, qui était en clandestinité. Nous réveiller avec toutes nos forces, avec toutes nos capacités, et il veut dire très exactement, pas seulement religieuses, toutes, il va s'en expliquer, je veux dire au niveau d'une société, et pas seulement d'une communauté de type uniquement religieux ou confessionnel, comme vous diriez. C'est-à-dire, y compris toutes les autres forces de fondement à l'utopie, c'est-à-dire les forces esthétiques, les forces techniques, les forces scientifiques, toutes les forces humaines. Il y avait, dans la société d'Israël, 12 tribus qui étaient 13, et pas seulement une, qui serait que la tribu de Lévi, la tribu sacerdotale. Il y avait 12 tribus qui étaient 13. Elles avaient le même Sefer Torah, mais avec des forces d'être hébreux différentes et qui n'étaient efficaces que dans la mesure où elles étaient unies, d'ailleurs. C'est ce long temps de clandestinité à travers cette mise à l'abri qui, et vous m'avez aidé à penser à y mettre l'accent, a fait penser que l'identité juive s'était restreinte à une identité confessionnelle, confessionnelle uniquement. L'Ishtamesh, Bechol Haimtsaim, Shazman Mevi, ajoute le Rav, de nous servir de tous les moyens que notre époque fait venir au niveau de l'émergence, de l'éclatement, de la résurgence des grands talents de l'humanité, de la société humaine en général, qui, à l'époque contemporaine, se sont dévoilés. Se sont dévoilés un peu comme lorsqu'on ouvre une boîte de Pandore, c'est bien comme ça qu'on dit encore, c'est-à-dire avec son bien et son mal. Mais on ne peut pas nier qu'effectivement, ce commencement de construction, de réalisation de ce que serait l'utopie du messianisme juif et contemporain, d'une explosion de capacités de civilisation et de culture à l'échelle humaine en général, avec toutes les catastrophes que cela entraîne ou que cela implique, et que Dieu plaise que ce soit fini. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes contemporains d'un temps messianique, dans un autre sens, à l'échelle de l'humanité en général. Ça explose. Et voilà la phrase qui me semble être l'explication directe de ce qui vient d'être dit. « Hakol yad El Bore Kol Olamim Menaelet. La mère du Dieu qui a créé tous les mondes dirige tout. C'est-à-dire, à travers toutes les tendances de l'identité humaine, il y a, nous sommes en monothéisme absolu, il y a la main du Dieu unique. Pas seulement à travers la religion, à travers le rite, la vie spirituelle, la vie morale, tout ça c'est évident et ça reste évident, mais à travers tout. Et donc lorsqu'une société reprend et sort de la clandestinité, reprend sa marche historique, elle doit donc rassembler dans son âme toutes ces forces que Dieu créateur a mis dans la nature humaine, si j'ose dire, parce que c'est lui qui crée tout. Mais Aïchour ou Aïchour Moukha, ce long retard de ces 2000 ans, où l'utopie messianique juive était restée utopique, ce long retard était nécessaire. Bahala Nafshemu, notre âme a été prise de terreur. C'est de la terreur qui est mêlée d'indignation, Bahala. Bahataim Ayumim Shelanhagat Mamlechet Be'etra, devant les fautes terribles que commet la direction d'une société en un temps de méchanceté. Je pense que le texte est clair, il n'a pas besoin de commentaires. Veine Gazman, et voilà l'espérance messianique qui revient. Et voici, dit le Veine Gazman, et voici le temps est arrivé. Karoméod, très près, Haolam Itbasem, le monde est en train d'être parfumé. Bosem, c'est le parfum. On a l'habitude de traduire embaumé, pas embaumement comme dans l'Égypte des Mandelettes, mais le parfum. Le monde donne déjà son parfum. Va nous nuchal kvar leachin atzmeni. Et quant à nous, nous pouvons déjà nous préparer à respirer le parfum, mais plus que ça, à préparer l'huile parfumée. Ki lanu kvar efshariye, car voilà que déjà il nous est possible, les Nahel Mamlachtenu, Aliesodotatov, je vais ajouter un mot, d'envisager de diriger les affaires de notre société sur les fondements du bien. A Chochma, de la sagesse, à Yosher, de la droiture, Veahara, à Elakit, à Brura, et l'inspiration divine claire, épurée, non faussée, non assumée par. Non mêlé d'autres critères d'assomption. Yaakov, Shalach, le Esav, et ta Porphyra. Et là, vous me permettez quelques instants de commentaire. C'est une phrase du Talmud qui dit Jacob a laissé la pourpre à Esaü. La pourpre, c'est le manteau royal. Je ne sais pas si dans tous les drapeaux il est nécessaire qu'il y ait aussi du rouge, enfin du pourpre, mais ça indique certainement dans la symbolique héraldique, dont je ne suis pas du tout compétent, le manteau royal. C'est-à-dire, Jacob s'est séparé d'Ésaü et a donné à Ésaü les prérogatives de l'État. Et c'est ce que dit le verset qui raconte l'histoire de la rencontre entre Jacob et Ésaü, « Yaravorna Adoni Lifne Avdo ». Commence-toi, essaye-toi. À fonder la société humaine sur tes propres principes. Je viendrai après. En hadavar kedai le Yaakov la'asot bamamlach. Ce n'est pas du tout apte à Jacob, qui est un homme de pureté, de s'occuper de l'État, d'un État, de s'occuper des affaires politiques, sans dire ce texte très exactement. Je reviendrai bien sûr pour nuancer, pour voir quoi quant à notre sujet. Et vous voyez, nous avons accepté cela pendant 2000 ans. Pour pouvoir garder les mains pures, de ne pas avoir de mains, parce que les mains appartiennent à Ésaü. Mais parce que nous dit le Rav, et peut-être que nous ne sommes pas du tout, ou pas encore, sortis de ce temps-là, mais là nous avons un message messianique sur lequel nous allons revenir. Et pendant tout ce temps-là, alors nous avons faim de dire que le royaume n'est pas de ce monde. Mais ce n'est pas nous qui avions dit cela. Nous étions simplement à l'abri dans les ghettos, à l'abri dans les ghettos. Et Be'et She'it Sricha Liot Damim Lea. Ce n'est pas à Jacob de s'occuper, donc je dirais, de politique, en un temps où la politique est nécessaire d'être pleine de sang, doit être pleine de sang. Ce n'est pas de lui. Beit Shetovet Kisharon Shel Risha, en un temps où la politique réclame des compétences de méchanceté. Kisharon Shel Risha. Anu Kivanu Rak Et Hayesod Kefi Haak Aechreach Leyased Uma. Nous n'avons retenu de cela, reçu de cela, que le fondement de l'idée de société, afin de savoir fonder une société, mais non pas le contenu, mais non pas la législation. Vekivan, Shenigma la Geza, ou Dahnu Mimloch. Et puisque était arrivé le temps de cette impossibilité d'être juste en politique, j'ai un peu interprété cette phrase, nous avons été repoussés, écartés, et nous nous sommes laissés faire, vous vous rappelez de la première phrase, de la royauté. Bagoim et Pazarno. Nous avons été dispersés chez les nations. Nizrarnu vema amakea adama. Nous avons planté notre semence dans les profondeurs de la terre. Adacher et Azamir Igia, jusqu'à ce qu'arrive le chant de la tourterelle, de Azamir, le chant du. De, c'est la Tor, la tourterelle, le chant du rossignol, c'est Raquel. Mais quand la Tor, Ishma Vertsenu, et que le chant de la tourterelle soit entendu sur notre terre. Voilà, je crois, indépendamment que ce texte, du fait que ce texte est en lui-même très beau, je crois qu'il y a là une explication extrêmement importante. C'est que le projet politique, dans la réalisation messianique de l'utopie, ne vient pas à la fin, il est au commencement du processus de cette réalisation. Et là, je terminerai ces citations par un enseignement de Maïmonide. Et la transition entre ces deux textes, celui que nous venons de lire et celui que je vais vous lire maintenant, c'est le fait que l'idée que la réalisation de l'utopie pouvait commencer est contemporaine d'une mutation très fondamentale qui s'est produite dans la civilisation contemporaine par rapport à tous ces problèmes. En ce sens que jusqu'à un certain temps, il était évident et délibéré et systématique que tout projet politique était fondé sur un projet de puissance. Mais il est apparu quelque chose de différent. Et même si c'est resté utopique dans le sens de non encore réalisé, mais nous savons déjà que non encore réalisé ne signifie pas forcément non encore réalisable. C'est qu'on a commencé à penser, et peut-être que c'est l'honneur de la France qu'on y ait commencé chez elle au temps de la Révolution française, on a commencé à penser à un projet de société qui serait basé sur un projet moral, sur un projet de valeur morale. Et c'est très certainement, le Rav Kook ne le dit pas explicitement, à cela qu'il pense lorsqu'il nous mène à réfléchir à cette correspondance entre l'apparition du messianisme contemporain au niveau du projet politique, qui se nomme, mais ne gardons que le sens étymologique, qui se nomme sionisme, et qui est la première étape du projet messianique global. Le projet politique étant au début de la messianité et pas à la fin, qu'il y ait correspondance dans le temps. C'est au temps des utopies d'où sont sortis les premiers utopistes, disons, de la Révolution française. Et bien sûr, il y a eu échec et échec sur échec, mais quels que soient les échecs, comme nous disions ce matin, il y a des divorces, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se marier. Mais dès qu'on sait qu'on peut se marier, même s'il y a des divorces, alors le temps du mariage est arrivé. Et quelle que soit la valeur de l'image, c'est un peu ce que je voulais dire. Et c'est au temps où on a commencé, dans l'universel humain, à penser sérieusement qu'un projet politique pouvait être basé sur des valeurs morales et non plus sur un projet de puissance, que le peuple juif a commencé à sortir de sa clandestinité, qui a été décrite tout à l'heure, et a commencé à réfléchir aux conditions de possibilité de cette réalisation, de ce commencement de réalisation, et les événements nous ont bousculés. Et l'enfant est né. Et alors, c'est Maïmonide maintenant qui va nous dire quel est l'objet de ce commencement de construction, comme disait Mizrahi hier soir. V. Slimane. Mais là que je suis. L'onit avou, je vous donne la référence, c'est la quatrième Mishnah du 12e chapitre de Ilchot Melachim dans le Mishnah Torah. L'onit avou, achachamim ve'anevim, nos sages et nos prophètes n'ont désiré, dans le sens profond du désir, yemot ha-mashiach, les temps messianiques, l'eau qu'aide chez Ishletou al-Kolaolam, non pas en tant que projet de puissance, afin qu'il domine sur tout le monde. Et rappelez-vous les protocoles des sages de Sion. C'était des...